si on commençait par les vins, mes bons amis.
Ah.
Ce que raconte le vin.
Monsieur. Dites-moi, avec un radis, qu'est-ce que vous me conseillez?
Ah, monsieur pourrait prendre un petit muscadet.
C'est sec ou c'est doux?
Plutôt sec.
Je préférerais plutôt doux.
Alors, sauterne.
C'est doux?
Ah, c'est très doux.
C'est pas trop doux?
Ah, si, c'est doux. Voulez-vous un demi-sec?
Non, je préférerais un demi-doux.
Radio Grenouille s'invite au grand marché d'automne avec les grandes tables et la friche Belle de Mai.
Non, écoutez, donnez-moi parce que vous ne savez pas. Attendez, je vais m'occuper moi. Vous allez voir. Attendez.
Messieurs, buvez.
Bonsoir Emmanuel Giraud.
Soir.
Je me disais, si Dionysos était là, qu'est-ce qu'il buvrait comme vin?
Je pense qu'il il déboucherait un vin orange.
Un vin orange?
Un vin orange. Vous savez, ce sont ces vins blancs qui sont réalisés comme des vins rouges. En fait, ce sont des vins blancs de macération. Ce qu'il aura envie de mâche, Dionysos, s'il ouvrait une bouteille ce soir. Il a envie de croquer dans le raisin, que ça lui accroche un petit peu à la pulpe des gencives.
Frédéric Coachon, bonjour.
Bonjour.
Votre premier verre de vin, vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens. Ouais. J'avais 10 ans, Chassagne-Montrachet 49, avec mes parents sur une terrasse. Premier vin que je goûtais.
Ça fait quoi?
Ça fait rien, je me rappelle pas du tout, à part le nom.
Bonsoir Antonin.
Bonsoir.
Antonin Yomi Amunategui.
Bravo.
Et alors le vin nu, ça existe?
Oui, tous les bons vins sont nus.
Nus, c'est-à-dire vraiment nus?
C'est-à-dire déshabillé de tous les artifices qu'on trouve habituellement dans la plupart des vins, ceux que vous rencontrez dans les supermarchés, dans les faux cavistes et compagnie et compagnie. Les autres, ce sont les vins nus.
Ce qu'on boit, par exemple?
À peu près, ouais.
Vous savez ce qu'on est en train de boire?
Là, tout de suite?
Ouais.
Il me semble, oui, que c'est un vin blanc de Provence, du domaine de Sulose.
Alors, c'est un Galinette.
Voilà.
Du domaine de...
Cendré.
Karima. Karima et Guillaume Lefebvre.
C'est pas mal.
On est en direct des grandes tables à la friche Belle de Mai. Vous écoutez Radio Grenouille. C'est le grand marché d'automne à l'occasion des 10 ans des grandes tables. Ce que raconte le vin, c'est une émission avec Emmanuel Giraud qui est artiste, performeur, auteur de dîners mémorables. Et puis Antonin, Yomi Amunategui, qui est journaliste, blogueur sur E89, et Frédéric Coachon, qui est fondateur de la cave à Marseille, les Buvards. Antonin, le vin et l'amour, ça va ensemble?
Ça va évidemment ensemble, c'est même indissociable. On tombe amoureux en buvant du vin, on boit du vin quand on n'est plus amoureux aussi, donc il y a plein de raisons de boire du vin.
Emmanuel Giraud, vous êtes déjà tombé amoureux avec un verre de vin?
Plusieurs fois.
Plusieurs fois? Systématiquement?
Ça risque de m'arriver.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour. Car la vie toujours rassemble, oui, la vie toujours rassemble, malgré tout ce qui se quitte un jour. Et le soleil du bel âge brillera après l'orage, un beau matin pour sécher nos pleurs. Et ta main comme une chaîne viendra se fondre à la mienne, enfin pour le pire et le meilleur. Nous referons ensemble, nous les referons ensemble, demain les vendanges de l'amour. Car je sais que tu ressembles, oui je sais que tu ressembles comme deux gouttes d'eau à l'amour. Ma comparaison peut-être sur tes lèvres fera naître un sourire en guise de discours. Mais pourtant j'en suis certaine, ce soir autant que je t'aime, oui ce soir.
Mais Antonin, vous avez été un petit peu court sur le vin nu. Parce qu'en fait, le vin nu, c'est aussi le vin naturel, non ?
C'est d'abord le vin naturel. Le vin nu, c'est une expression qui nous vient de Jules Chauvet. Je ne vais pas m'étendre, c'est un auteur important. C'est quelqu'un qui a relancé le vin naturel en France dans les années 50-60. Et il a donné cette expression qui est très parlante, de vin nu, c'est-à-dire déshabillé, encore une fois, de tout ce qui pourrait l'encombrer, de tout ce qui est superfétatoire, de tout ce qui est inutile, tout simplement. C'est-à-dire, pour être bref, les produits chimiques de synthèse qu'on utilise à outrance aujourd'hui dans le vin, en France et dans le monde.
Et le vin, ce vin nu, ce vin dit naturel, il a toujours existé ?
Oui, c'est les premiers vins en fait. Les vins qu'on faisait il y a 8000 ans en Géorgie étaient du vin nu, c'est-à-dire du vin fait à partir de raisins frais, bio évidemment, biologique, qu'on mettait dans des grandes amphores, qu'on enterrait, on les laissait faire, on laissait faire la nature et on en ressortait du vin. Donc c'était assez magique, d'où probablement Dionysos, Bacchus et compagnie. À mon avis, toute la religion en fait est née là à ce moment-là, mais ça c'est mon expérience personnelle de la religion. Je pense que c'est né à ce moment-là en Géorgie, il y a 8000 ans, lorsqu'on a bu un premier verre de vin magique, né d'une amphore, né de la terre, telle une plante, telle une source merveilleuse.
Emmanuel Giraud, dans vos dîners mémorables, c'est toujours du vin naturel ?
J'essaye de servir lors de mes dîners des vins qui me plaisent et que j'ai envie de boire. Donc forcément, j'essaie de mettre des vins le plus naturel possible. Cela dit, les dîners que j'organise sont souvent des dispositifs un peu troublants qui poussent parfois les convives dans leur retranchement. Et pour provoquer certains convives, je pourrais être amené à servir un vin qui n'est absolument pas naturel et qui n'apporte peut-être un peu moins de plaisir qu'un autre, dans le but d'agacer, de titiller certains convives.
Frédéric, à Marseille, on vend facilement du vin naturel ?
On en vend, c'est pas ce qu'il y a le plus en poule comme à Paris ou autre ville en France, même Lyon qui commence à bien se développer, mais ça commence, ça prend tout doucement. J'ai pour le coup été souvent, enfin très longtemps tout seul, il commence à avoir de plus en plus de vins nature et propres qui commencent à apparaître dans différentes caves et différents lieux sur Marseille.
Les buvards, ça fait combien de temps ?
9 ans.
9 ans de buvards.
9 ans de buvards.
Pourquoi buvards ?
Parce qu'il faut juste passer au lieu, parce qu'il y a une énorme connexion de vieux buvards publicitaires des années 50 qui parlent du vin. Donc certaines publicités aujourd'hui avec les lois E20 seraient complètement interdites. Mais voilà, il faut juste passer pour regarder.
Emmanuel Giraud, ça, le buvard, ça vous parle ?
Oui, j'y suis déjà passé plusieurs fois. Il y a quelques années, et j'apprécie beaucoup la très belle sélection des vins des buvards.
Mais les buvards, ça vous parle aussi, parce que je crois que vous avez fait une performance avec des tâches de vin, Emmanuel Giraud.
Alors, non, j'ai pas fait de performance spécifiquement avec les tâches de vin. Ce sont dans mes carnets de dégustation, j'appose souvent une petite tâche de vin, du vin que je suis en train de déguster, pour que le vin me parle plus quand je relirai ces notes plusieurs fois. Et puis, effectivement, j'aime beaucoup les excès en général. Donc, quand on boit beaucoup de vin, forcément, on fait des tâches. Et les buvards sont les bienvenus pour éponger les tâches de vin.
Antonin, je ne vous avais pas posé la question, vous, votre premier verre de vin ? De vin naturel.
Oui, parce que le premier, je ne m'en rappelle pas. Le premier verre de vin naturel, ça devait être un verre de Flambadou de Jeff Coutelou, qui est un excellent vigneron du côté de Pumisson dans le Languedoc, qui fait du vin là-bas depuis 25 ans, et c'est formidable. En plus, c'est pas trop cher.
On n'a rien dit sur le vin qu'on venait de goûter, cette galinette.
Eh bien, on l'a descendu comme une petite galinette cendrée. Moi, je trouve ça très bien. Il y a une belle acidité, c'est parfait. Pour commencer, c'est très bien.
Pour commencer, c'est vrai que c'est très bien. Je propose qu'on continue à goûter encore un peu de vin.
Oui.
Alors, on va continuer la liste. Normalement, on devrait passer au vin rouge. Un vin d'Auvergne, du domaine de Jean Maupertuis. C'est un vin de 2015. qui nous est servi par Pauline. Antonin, quand on parle du vin nu, il y a aussi du vin nu, du vin naturel. Il y a aussi toute une contre-culture qui va avec. Alors, il y a une certaine manière de le produire, c'est-à-dire sans intrants ou un tout petit peu peut-être de...
Une pichenette de sulfite éventuellement, oui.
Une pichenette de sulfite. Mais sinon, c'est aussi une autre manière de parler du vin, une autre manière aussi de l'habiller, ce vin, avec les étiquettes. Vous pouvez en dire quelques mots sur ça ?
Oui, contre-culture, c'est le bon terme, je crois. On peut même parler de contre-agriculture, parce que ça commence dès la terre, dès la vigne, qui est travaillée différemment, en agriculture biologique, en biodynamie. Et c'est vraiment avec des convictions. C'est pas une question de marketing ou commercial. C'est d'abord des convictions. D'ailleurs, les vignerons naturels ont souvent des parcours assez fantasques. Ils viennent de la ville, pour beaucoup d'entre eux, ont des parcours qui n'ont rien à voir avec la terre, n'ont pas forcément hérité du domaine. Ou alors l'ont repris bien plus tard après avoir une autre vie, parfois hors de France, très loin. Évidemment, il y a des vignerons naturels hors de France aussi. Donc voilà, donc ce sont des personnages, souvent des personnages très intéressants.
Mais les, leur vin. Les étiquettes aussi, elles peuvent, par exemple, être directement politiques, elles peuvent directement faire référence au punk, par exemple, ou du rock.
Alors les étiquettes, c'est aussi lié au fait que souvent les vignerons naturels n'ont pas d'appellation, soit parce qu'ils ont fait le choix d'en sortir, parce qu'ils trouvent que les cahiers des charges sont trop laxistes, inutiles, voire débiles, littéralement au sens propre du terme, soit ils ont été éjectés de l'appellation alors qu'ils y tenaient, mais n'ont pas eu le choix, et donc doivent vendre leur vin en vin de table ou vin de France, et pour se démarquer du reste, ils ont choisi ce petit clin d'œil de faire des étiquettes décalées, parfois tout à fait provocantes, effectivement, avec des noms totalement barrés. Je pense à Pascal Simonetti, qui a fait le vin de Bagnoles, ou un vin boire-tu, comme on a les paquets de cigarettes fumées-tu, il a fait une énorme étiquette avec boire-tu barré. Voilà, c'est le vin glacial, et pourtant délicieux à l'intérieur, je vous recommande. Si on vous en trouvez, c'est introuvable, il y en a peut-être au buvard, je ne sais pas.
Emmanuel Giraud, vous avez carrément fabriqué une cuvée de vinir gris.
Oui, c'est une cuvée que j'ai réalisée en hommage au peintre Roman Opalka. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'œuvre de Roman Opalka. C'est une œuvre qui est complètement vertigineuse, un petit peu comme l'installation dans laquelle nous sommes installés aujourd'hui. Il a décidé de peindre toute sa vie les chiffres de 0 à l'infini. Et à chaque fois qu'il change de tableau, il a rajouté 1% d'encre blanche dans son encre noire. C'est-à-dire qu'au départ, il écrivait en noir sur blanc, et puis finalement, petit à petit, il a écrit en gris, puis en blanc, très très pâle, sur ses tableaux blancs. Et j'ai fait la même chose, de façon peut-être plus modeste, avec deux vignerons que j'apprécie énormément. Il y a Eric Pfifferling, du domaine de Langlore, et il y a également... L'autre vigneron qui est
Alain Allier,
exactement, domaine du Mauressip. Devenir gris, c'est une cuvée qui est partie d'une barrique d'alicante d'Alain Allier. L'alicante, c'est un cépage teinturier, donc très très noir, très dense, et d'une barrique de grenache blanc de Eric Pfifferling. Et à chaque changement de bouteille, j'ai rajouté 1% de grenache blanc dans l'alicante de Alain Allier. C'est-à-dire qu'on est parti d'un 100% alicante et on est arrivé à un 100% grenache blanc avec toutes les nuances possibles sur les 100 bouteilles. Donc, devenir gris, c'est une cuvée unique. Il y a 100 bouteilles qui sont toutes différentes les unes des autres. Elles ont été exposées à Montpellier et un des prochains projets, puisque maintenant c'est une cuvée qui est arrivée à son apogée, il faudrait vraiment la boire. Et je ne voudrais pas que cette œuvre reste complètement statique et exposée dans un musée. Je suis pour la performance et il faudrait la boire. Et donc, je souhaite inviter 100 personnes dans un grand ring de boxe 7 mètres sur 7. Et chaque personne se verrait attribuer un verre à dégustation et une bouteille qu'on va fixer à la main avec un coup de gaffeur. Et personne ne sera autorisé à sortir du ring tant que les 100 bouteilles ne seront pas bues. Ce sera en quelque sorte une fantastique célébration de l'ivresse et de Dionysos.
Le vin, monsieur. Mouton Rothschild 55.
J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
C'est un peu violent. Pas le bouchon, votre aftershave. Il gâche toute la saveur de ce vin.
La légende du dîner mémorable, 16 février 2002. Dîner funèbre, 1er février 1783, 6 mars 2009. Dîner enfumé, 13 février 2009. Le festin de Trimalcion, 5 septembre 2009. Menu amer, 21 mai 2009. La chair et le sang, 23 août 2013. Emmanuel Giraud, c'est vous qui êtes l'auteur de ces dîners ?
Oui, tout à fait. Ce sont des dîners que j'ai conçus, que j'ai patiemment peaufinés et puis réalisés pour un certain nombre de convives.
Et il n'en reste que la mémoire des convives.
Effectivement, puisque ce qui m'intéresse dans l'alimentation, dans ce que l'on ingère, finalement, ce n'est pas tellement ce qu'on a dans l'assiette, mais ce qu'on va garder en mémoire. Ce qu'on a dans l'assiette, il va disparaître forcément, alors que le souvenir, lui, il va rester, il va forcément se transformer, il va se modifier en fonction de la sensibilité de chacun, de la personnalité des différentes personnes qui ont assisté au dîner. Et donc, c'est quelque chose qui me fascine, puisque on invite 10 personnes autour d'une même table, on leur fait manger exactement la même chose, et pourtant, personne ne va se souvenir du même plat. Chacun va redonner ensuite sa version, sa propre mémoire du repas.
Qu'est-ce qu'apporte le vin dans un repas ? Par exemple, j'imagine que le fait de mettre le vin en début, avant même de commencer à manger, ou le vin après, ou à tel endroit du repas, voilà. Qu'est-ce qu'apporte ? Comment vous scénarisez la présence du vin dans vos dîners ?
Alors, il y a d'abord les accords qui sont faits avec certains plats. Je pense à des plats avec des goûts assez singuliers, des plats de gibier qui nécessitent des vins puissants. Je pense par exemple à un lièvre en deux services, lièvre au cacao que j'avais réalisé pour le dîner funèbre. Là, j'avais justement servi l'Alicante d'Alain Allier du domaine du Mauricipe, qui est un vin extrêmement puissant mais très voluptueux et qui se mariait à merveille. Le vin est aussi là pour apporter de la joie, pour apporter de l'ivresse, pour être une sorte de petit diablotin qui vient un peu chambouler le bon ordonnancement bourgeois classique du repas où les conversations sont polissées. Le vin peut aider un peu à faire sortir la personnalité cachée des convives et apporter un peu de trouble dans le repas.
Et est-ce qu'il amène un peu de lenteur ?
Aussi, le vin permet de rentrer dans une autre dimension. On est quand on commence à boire, on est déjà un autre personnage, et puis les durées s'allongent. On est moins pressé quand on boit.
Fred Coachon, ce vin rouge d'Auvergne, du domaine de Jean Maupertuis, oui. C'est vous qui l'avez amené ?
C'est moi qui ai amené ça, oui.
Viens proche du micro.
On parlait des vins nus tout à l'heure. Là, on est vraiment sur un vin nu. Là où c'est un vin qui a... Il n'y a que du raisin dedans. Jean Maupertuis, qui est un Auvergne, donc on est sur des basaltes et sur des pinots noirs dessus. Mais pour le coup, pour l'idée d'un pinot, on est vraiment sur des jus assez aériens, avec des notes épicées, des petits fruits rouges. C'est vraiment un esprit du vin nature. C'est ça, c'est pour ça que je voulais vous amener ça, que c'est pas des vins nature, voilà, c'est vraiment pas touché du tout. C'est comme les vins d'Éric Pfefferling ou de Alain Allier dont il parle tout à l'heure. C'est vraiment, voilà, c'est des vins très très propres pour moi et qui sont très justes.
Mais quand vous dites que c'est pas du tout touché, c'est-à-dire quoi ? L'homme fait plus rien ?
Pas d'intrant. Quand je dis c'est pas touché, c'est sans aucun intrant.
Sans aucun intrant, rien du tout ?
Rien du tout, du raisin.
Mais le vin, il se tient où, du coup, ce vin-là ? Est-ce qu'il se tient dans la vigne ou dans la vinification ?
Il se tient d'abord dans la vigne pour avoir un raisin très propre à la vendange, et après à la vinification, où l'intervention de l'homme n'est juste de suivre le vin et pas de venir interférer dedans avec des produits chimiques ou autres process.
Belle robe vermeille, un peu violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans, C'est un 53, une très grande année. Le vin, c'est la terre. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. C'est un Saint-Julien. Château Léoville-Lascaz, 1953.
Antonin, vous avez reconnu ?
Oui, là où la cuisse.
Il y a toute une parodie du commentaire du vin aujourd'hui.
Il y a tout un langage en fait assez abscon, qui pour moi est le langage du professionnel qui essaye d'une manière verticale d'impressionner l'auditoire pour lui montrer son savoir immense, pour l'écraser, le faire taire, le faire finalement acheter la bouteille de Mouton Rothschild 1953 à 53 000 euros. Mais c'est beaucoup trop cher. Alors que si on va au Buvard ou dans l'un des 300, 500, 600 cavistes intéressants aujourd'hui en France, on peut trouver des vins formidables à 10, 12, 15 euros.
Frédéric Coichon, vous avez été sommelier.
J'ai été sommelier, oui, dans du classique.
Dans du classique.
Oui.
Dans des vins comme celui qu'on vient d'entendre, là.
Dans des vins comme ceux qu'on vient d'entendre, pas 53. Mais oui, certains autres, pas les Moutons Rothschild à 53.
Et vous aviez comme ça ces formules, le nez du vin?
Oui, beaucoup. Bah, c'est un peu l'apprentissage qu'on vous fait dans le classique, en sortant des écoles et autres, d'un apprentissage de sommelier, c'est-à-dire de description de vin et d'un aromatique. Qui est là, donc qu'on utilise aussi aujourd'hui encore nous dans le vin nature, mais beaucoup moins, parce qu'en fait l'idée, dans ce milieu-là, va être la recherche d'une texture, d'une élaboration du vin. C'est-à-dire, quand on discute entre nous, on n'a pas ce pesant de mots qui va donner sujet à des grands adverbes. Non, non, on parle de technique et peut-être un peu plus. Donc peut-être pour certains néophytes, on va commencer à les noyer. Après, quand je pense qu'on est devant le public, moi devant des clients, on utilise un langage très simple. On essaye d'utiliser un langage de tout le monde, parce que le vin, ça reste un produit pour tout le monde, un produit très simple à la base. Le vin, c'est fait pour tous. Quoi.
Emmanuel Giraud, Frédéric emploie le mot de texture. Est-ce que ça vous parle, l'idée que finalement, le vin, on va plus parler de ça ? Sa matière, sa matérialité, sa texture, peut-être sa plasticité, que davantage ces métaphores du soleil et de la terre.
Oui, les arômes de petits fruits rouges, on s'en fout un peu aujourd'hui. La question de la texture est beaucoup plus intéressante, effectivement. On a commencé l'émission, j'évoquais le vin qu'aurait voulu boire Dionysos ce soir, un vin orange. Ça, c'est un vin de texture. Ça, c'est un vin qui a de la mâche. Ça, c'est un vin qui saisit le buveur par les papilles, parce qu'il y a une véritable action mécanique sur ces pastilles, ce petit côté astringent qui va tout d'un coup faire se dire « mais qu'est-ce qu'on est en train de boire ? C'est fabuleux !»
Et d'ailleurs aussi, du coup, cette association, par exemple, d'un vin avec un type d'aliment particulier, mais j'imagine que vous, Emmanuel Giraud, vous pensez aussi le vin avec l'aliment, mais avec la lumière, par exemple, dans quelle lumière on est. Dans quel espace on est. J'imagine que c'est des éléments que vous ajoutez pour la composition.
Ou que je retire, puisque j'aime bien les atmosphères tamisées, j'aime bien les éclairages de la bougie, j'aime bien finalement qu'on ne voit pas tant que ça la couleur du vin. Description classique de la sommellerie française où on a trois pages sur la couleur du vin, là aussi ça m'intéresse bien. La couleur peut avoir des effets de lumière merveilleux, mais finalement, c'est le goût qui nous intéresse, c'est la saveur, c'est le parfum, c'est ce qui va nous toucher dans notre chair.
Antonin, ce vin que nous sommes en train de goûter, qui nous est amené par Frédéric, ce domaine de Jean Maupertuis, vous le connaissiez ?
Je connaissais le domaine, je n'avais pas goûté ce millésime dans cette cuvée, non.
Mais alors, de le goûter,
c'est remarquable, effectivement, c'est un pinot noir. Je ne sais pas si j'aurais forcément... Je ne suis pas très bon, moi, à l'aveugle. Je ne sais pas si j'aurais reconnu, j'aurais pu dire, pinot noir 2013, etc. Mais voilà, en fait, on s'en fiche un petit peu de tout ce... Ça, ce sont des éléments techniques. Ce qui compte en priorité, c'est d'abord le plaisir qu'on prend à absorber le breuvage. Et là, le plaisir est vraiment pas loin du comble. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, d'ailleurs, le verre est vide.
Il y a sur internet les vignerons du vin nu et les amateurs de vin nu, je vais continuer à l'appeler vin nu, j'aime beaucoup cette expression.
Moi, je dis vin naturel.
Vin naturel. Ils sont très présents sur Internet, à travers un certain nombre de blogs. Il y a une guerre aussi, d'une certaine manière, sur cette question des commentaires, de comment on parle du vin. C'est très présent, ça, de détourner la manière dite savante et classique de parler du vin, et ils imposent finalement une autre manière de parler du vin.
Tout à l'heure, on parlait de contre-culture, c'est exactement ça. Comme avant, dans la musique, on a eu des mouvements musicaux qui sont intervenus et ont chamboulé un espace qui était occupé par peut-être une forme plus classique de musique. C'est pareil dans le vin, c'est pareil au-delà du vin, dans l'agriculture en fait. C'est des artisans qui arrivent, qui chamboulent vraiment un modèle qui est établi. En l'occurrence, dans le vin, nous avons des grands châteaux, des grands domaines, des grandes appellations, des grandes régions. Toute cette hiérarchie existe depuis des siècles et elle est vraiment mise en question depuis quelques décennies, mais peut-être plus récemment, depuis 10 ans, de façon vraiment percutante, parce que ces grandes régions, cette hiérarchie, commencent à avoir peur. Et donc, il y a des réactions, il y a des vraies guerres, effectivement, des vraies insultes. Tous les jours, si vous allez sur les réseaux sociaux, normalement, il y a des gens qui s'insultent sur ces questions-là, qui pourtant, c'est du vin, ne devraient pas s'insulter. Et pourtant, moi, j'ai été traité de stalinien récemment. Voilà, parce que je disais que j'aimais un vin, je ne sais plus pourquoi, mais enfin, c'était assez fabuleux. Emmanuel Giraud, vous avez déjà endormi vos convives avec du vin ?
Je ne les ai pas endormis avec du vin, mais j'ai volontairement étiré la durée d'un repas pour que les gens se demandent s'ils allaient dormir ou pas. Mais finalement, le vin permet aussi de rester éveillé.
Frédéric Coachon, on est déjà venu vous voir à votre cave et vous demander... quel vin pour s'endormir ?
Non, ça m'est jamais arrivé. Là, pour le coup.
Et vous avez des souvenirs comme ça d'associations de vins assez étonnants, où c'est toujours quel vin pour tel repas, ou parfois, je ne sais pas, tel vin pour faire l'amour, par exemple, tel vin pour s'endormir ou pour se réveiller ? Ça vous est déjà arrivé, ce genre de demande ?
Ça m'est arrivé quelques fois, mais très peu, mais pas dans ce type de demande où on m'a demandé des vins... On me donnait juste un adjectif, on me disait on veut un vin velours, et donc débrouillez-vous avec ça. Bon, c'est pas non plus très difficile, on va dire, quand on a une grosse sélection, mais voilà. Et puis c'est essayer de correspondre à ce que demandent les gens, dans l'ambiance qu'ils ont avec leur plat du moment. Voilà, on n'est plus sur un rapport de plat et autres. Les gens veulent juste un rapport d'émotion avec un vin, et se dire voilà, il est 5h l'après-midi, on a fini la journée. Là, on veut un verre de vin qui corresponde à ce moment-là.
Parce qu'Antonin, vous, avec votre blog No Wine is Innocent, vous rendez compte de ces associations vin et faire l'amour. Quel vin, par exemple, pour faire l'amour ?
En fait, j'étais parti du principe qu'un vin naturel était meilleur pour faire l'amour qu'un vin conventionnel.
Alors pourquoi ?
Parce qu'il était moins chargé en produits toxiques, néfastes, et qu'il est donc la l'ivresse qui était consécutive était plus légère, aérienne. Et donc le corps réagissait mieux. Et donc j'avais interrogé un certain nombre de personnes pour leur demander si effectivement ils étaient plus en forme après avoir bu du vin naturel que du vin quelconque. Et les réponses étaient souvent positives, ouais. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas effondrés, fatigués, comme ça, assommés par le vin, et au contraire plutôt envolés, ils s'envolaient un petit peu.
Emmanuel Giraud, mais le vin classique avec ses intrants, sa chimie, ça a du goût, la chimie, c'est aussi un goût, la chimie.
Il y a bon les sulfites. Oui, ça a un goût. Ça a un goût. En fait, on parle de chimie, mais on peut parler aussi de technologie, de techniques anciennes comme les élevages un peu poussés à l'extrême. On parlait un peu dans les années 90 de vin passé 200% en fût de chêne. C'est-à-dire qu'on faisait un premier élevage dans un fût de chêne neuf, et ensuite on soutirait le vin et on le repassait dans un second fût de chêne neuf. Donc le vin avait fait 200% fût de chêne, et ça donne des vins qui étaient effectivement très marqués, qui avaient une singularité, on ne pouvait pas les louper, hein, mais après on pouvait se demander où était le plaisir.
On est en train de goûter un Carignan, un vin rouge de Languedoc, du domaine de Catherine Bernard. Vous l'avez dans votre bouche ?
Je l'ai avalé déjà, moi.
Déjà avalé ? Ouais,
c'est très bon.
Emmanuel, je vous vois en train de le mettre en bouche.
Je le sirote avec volupté.
Frédéric Vachon ?
Oui, presque déjà bu, pas tout à fait encore.
Presque déjà bu. Vous le connaissiez, ce vin ?
Oui, je connais très bien Catherine. Je la connais depuis ses premiers millésimes. Qui faisait essentiellement des vins d'assemblage. Là, je crois la première fois que je goûte un monocépage chez elle. Un Carignan qui n'est pas un des plus faciles, puisqu'il a des notes un petit peu plus animales, qu'on appelle la réduction ou l'autolyse dans nos jargons, on va dire. Mais voilà, c'est un vin qui est très bien, qui se déguste très bien. Je sais qu'elle elle participe souvent à des choses, aux événements d'Antonin, je crois, puisqu'elle elle a aussi des blogs sur Rue 89. Et qui est une ancienne de Libé ou quelque chose comme ça.
Juste, on pourrait s'arrêter comme ça sur des termes. Par exemple, monocépage, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est facile, ça. Hein ?
Mono, cépage, ouais. Une seule grappe.
Une seule grappe.
Un seul raisin.
Un seul raisin. Mmh. Et Emmanuel Giraud, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la sélection de 26 vins pour un abécédaire un peu original ?
Ah ! Les héros de la pensée, oui, effectivement, ça, c'est une collaboration avec un artiste suisse, Massimo Furlan, qui avait décidé de réaliser une performance qui relevait à la fois d'une relecture de l'abécédaire de Deleuze et du banquet de Platon. L'idée était de réunir 8 héros dans un lieu clos. Alors, ça s'est fait la première fois dans un centre d'art en Suisse, et la deuxième fois au théâtre de la Cité internationale à Paris. 8 héros qui sont invités à parler pendant 26 heures non-stop, sans dormir. Chaque heure est dédiée à une lettre de l'alphabet, chaque lettre de l'alphabet est dédiée à un concept. Pour la première édition, on partait de A comme alcool et on terminait à Z comme zoophilie. Et il fallait parler de ce concept pendant une heure tout en buvant du vin. Et donc j'ai été chargé, comme grand maître de l'ivresse de cette cérémonie, de sélectionner 26 bouteilles pour coller aux 26 concepts dont on allait parler. Et c'est-à-dire qu'il fallait trouver des vins qui étaient d'une grande digestibilité, qui allaient nous permettre de continuer à parler malgré l'ivresse, malgré le manque de sommeil.
Pour chaque lettre, un vin.
Exactement. Donc on avait des vins, alors ça remonte à quelques années, j'ai pas la sélection sous les yeux, mais il y a eu une édition de l'intégralité des débats qui sont tenus pendant ces 26 heures, qui ont été publiés aux presses du Réel, je crois. Et c'est on a tous les concepts, on a tous les vins qui ont été bus, et y compris tous les balbutiements, toutes les hésitations, toutes les incohérences liées à l'ingurgitation, non pas massive, mais régulière et sur une très longue durée de vin. Et comme j'avais sélectionné des vins qui étaient justement le plus naturel possible, enfin en tout cas le plus digeste et les plus sains, on a triomphé de cette épreuve et nous sommes sortis victorieux, complètement fourbus et légèrement ivres. Mais on est sortis de cette soirée, de cette nuit, de cette journée de 26 heures, heureux, le sourire aux lèvres et quelques taches de vin sur la chemise.
Tenez, Jim, il serait temps que vous commenciez à apprécier la bière allemande.
Jim est comme moi, il est français. Il se fout de la bière allemande.
Pas du tout.
Comment ? Mais le vignoble français est l'un des plus variés d'Europe, du monde même. Il y a, je ne sais pas moi, les Bordeaux, Château Lafitte, Château Margaux, Château Yquem, Château Frontenac, Saint-Émilion, Saint-Julien, Entre-deux-Mers, j'en passe, c'est des meilleurs. Il y a aussi Attendez, le Clos Vougeot, les Bourgognes, le Romanais, le Chambertin, le Beaune, le Pommard, le Chablis, le Montrachet, le Volnay, et puis les Beaujolais, le Pouilly-Fuissé, le Pouilly-Locher, le Moulin à Vent, le Fleury, le Morgon, le Brouilly, le Saint-Amour,
nous avions tous les vins d'Alsace, le Riesling, le Sylvaner, le Guébourg-Framinaire. Plus que trois marches, plus que deux marches, tous à plein ventre.
Attrapez-moi.
Emmanuel Giraud, c'est pas votre liste, ça, hein ?
Pas du tout.
Vous vous souvenez de votre liste ?
Je ne me souviens pas de tout, hélas. Alors que pourtant, souvent je bois pour me souvenir.
Eh oui.
C'est d'ailleurs le titre d'une performance.
À Maison Rouge.
Qui a été créée à la Maison Rouge à Paris, à la Fondation Antoine de Galbert. Et c'est une performance que j'avais initiée justement d'après. La lecture d'un petit livre de Christian Autier, qui était un hommage à Eric Colcut, un vigneron de Loire qui faisait un vin absolument fabuleux qui s'appelait The Picrate, qui était très troublant parce que le vin n'avait absolument rien à voir avec, enfin le nom du vin n'avait absolument rien à voir avec la bouteille, avec ce qu'il y avait à l'intérieur de la bouteille. Le vin était fabuleux, l'étiquette était volontairement éloignée les collectionneurs d'étiquettes. Et Christian Autier, justement, en découvrant ce vin après la disparition du vigneron, c'est un vigneron qui a disparu pendant quelques années, avait cette très belle parole, moi je bois pour me souvenir, et j'ai eu l'idée de faire un inventaire à la Pérec des bouteilles qui m'ont vraiment marqué dans parmi toutes celles que j'ai bues, elles sont quand même assez nombreuses, et je me souviens donc d'une centaine de bouteilles singulières, et lors de la performance j'en ouvre à peu près entre 40 et 50, et je goûte chacun des vins, et pour chaque vin je me souviens d'une émotion liée à la bouteille.
Quand un passé ancien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seul, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes, presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. Emmanuel Giraud.
Oui.
C'est Proust, ce qu'on vient d'entendre.
Ah, c'est très proustien, oui, effectivement.
Marcel Proust, du côté de chez Swann. Ça vous a inspiré, Proust ?
Bah forcément, c'est un auteur qui résonne avec, avec la nostalgie que j'affectionne et son goût pour la mémoire eh bien, fait écho au mien.
Dans le dîner mémorable, je crois que vous avez édité un vinyle.
Alors plus exactement, c'est une laque acétate, c'est-à-dire que c'est une des étapes de la fabrication d'un disque vinyle. C'est ce qu'on appelle en musique électronique un dubplate, c'est-à-dire que c'est un disque qu'on va graver en temps réel pour ne l'écouter qu'une fois, c'est-à-dire pour vérifier si la qualité sonore est correcte avant de lancer la véritable fabrication du disque et donc le pressage du moule. Et ce disque, si on l'écoute plusieurs fois de suite, va être extrêmement fragile et donc va se détruire très rapidement. Et j'ai voulu justement avoir un disque qui permettait l'enregistrement des souvenirs des participants, mais qui était extrêmement fragile. Et je l'ai présenté dans différentes expositions en Europe avec cet avertissement. Attention, si vous voulez savoir ce qui s'est passé pendant ce dîner mémorable, vous avez le loisir d'écouter le disque acétate. Mais sachez que si vous écoutez ce disque, vous allez irrémédiablement contribuer à détruire progressivement la mémoire et donc le souvenir enregistré. Donc c'est un disque assez pervers, puisque si on veut sauvegarder la mémoire, eh bien on ne l'écoute pas et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et si on veut savoir, eh bien forcément on va dégrader et le souvenir vont s'effriter.
Pourtant on aurait le sentiment que si on fait la remontée du souvenir, alors il revient comme neuf, comme vif, comme frais.
Il ne revient jamais comme dans son état d'origine, il revient toujours modifié, transformé, transfiguré. Et c'est peut-être cette transfiguration qui fait tout son intérêt. Mais le souvenir ne revient jamais à l'identique. Et c'est ça qui est merveilleux, fascinant, troublant, inquiétant. Mais c'est la volatilité du souvenir qui en fait son intérêt fascinant.
Alors, on en a trouvé un extrait de ce dîner mémorable. J'espère que lorsqu'on va l'écouter, là, ça ne va pas trop altérer le souvenir de ce dîner mémorable. Un extrait.
Emmanuel Giraud, qui aime bien mettre en scène chacun de ses plats, nous a lu une recette du rôti sans pareil. Une recette délirante, incroyable. Donc, l'excès absolu. Hein, le thème du repas, c'est l'excès.
C'est une recette mythique très ancienne, alors qu'il a reconstitué, parce qu'à l'origine, c'est des bestioles qu'on ne trouve même plus. L'ortolan dans une griffe, dans une bécasse, dans une sarcelle, dans un perdreau, dans un pigeon, etc. Genre poupée russe, tout ça désossé.
En fait, au départ, on vient fourrer l'anchois dans une olive. Laquelle olive, on vient la fourrer, si on en a, je crois me souvenir, dans des ortolans.
Tout cela a été enfoncé dans une caille.
La dite caille, on vient la fourrer dans un pigeon.
Le poulet dans une oie et l'oie dans une dinde.
Et donc tout à coup, on a vu arriver une énorme volaille, peut-être une oie, je ne sais plus.
Julien, son aide de camp, il arrive.
Un nouveau personnage est apparu, un cuisinier, un technicien, un véritable... Il nous a été présenté comme un véritable maître du désossage.
Le désosseur, le dépeceur, je ne sais plus, j'ai oublié son prénom.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said.
On est en direct des Grandes Tables, c'est une émission spéciale sur ce que raconte le vin à l'occasion du grand marché d'automne, c'est les 10 ans des Grandes Tables.
Summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Oh, summer.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine.
Antonin?
Oui.
Picasso, on ne réglemente pas de Picasso.
Non, sûrement pas. Lui-même faisait ses propres règles, comme d'autres. comme les grands vignerons aujourd'hui le font également, de la même façon.
Donc pas besoin de réglementer le vin naturel.
Alors moi je pense que si, mais la plupart des vignerons naturels pensent que non, et c'est eux qui ont raison avant moi, donc effectivement il vaut mieux pas le faire, parce que c'est si on donne une règle officielle, c'est-à-dire européenne au vin naturel, immédiatement les grands loups de l'industrie vont se jeter dans la brèche. Mais mon argumentaire, c'est de dire que c'est déjà le cas. Si vous allez dans un supermarché, vous verrez vin naturel écrit sur plein de bouteilles, alors que c'est interdit aujourd'hui.
Frédéric Coisson, vous me disiez avant avant cette émission, lorsqu'on s'est entretenu au téléphone, vous me disiez oui, bon, le vin naturel, c'est pas parce que c'est naturel que c'est de qualité.
Non. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus, on va dire. Je pense, je fais pas partie des plus vieux, parce que les plus vieux, ça remonte à plus d'une trentaine d'années, je vais dire, dans les dégustateurs, les premiers qui ont créé des caves, notamment sur Paris. Qui écrivent aussi différentes revues aujourd'hui sur le vin. On a écumé, je pense, beaucoup de choses. Il y a aujourd'hui, l'essor du vin nature est vraiment là. Au début, ça arrivait. Beaucoup de gens s'y sont mis. Et on a eu de tout et de n'importe quoi, en fait. Et donc, certains étaient suivis avec d'autres vignerons, donc qui étaient parrainés, on va dire, et qui étaient très bien. D'autres sont arrivés un peu dans cette mouvance un petit peu baba et de se dire, tiens, on va faire du vin nature, voilà, de toute façon c'est pas difficile, il suffit de raisins, il suffit de les presser, puis on laisse un peu faire la nature. Pas du tout, parce que du coup on s'est retrouvé avec les différents défauts de vin qui étaient vraiment insupportables, et à ce moment-là, vaut mieux même goûter des vins qui sont dans le conventionnel et pas nature, que goûter ce genre de vins qui sont complètement déviés, et je pense qu'ils peuvent faire plus de mal qu'un vin dit traditionnel.
Le fait d'avoir été sommelier classique, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui lorsque vous parlez du vin naturel?
Ça m'a, par rapport au vin naturel, bah si ça j'ai quelque chose. Par rapport au vin nature, c'est surtout par rapport au vin en lui-même, c'est-à-dire que j'ai une mémoire des millésimes en fait. C'est-à-dire que j'ai un recul de dégustation, donc moi ça fait déjà plus de 20 ans que je suis dans le vin. Et j'ai goûté des vins, on va dire les plus vieux jusqu'à 1921. Certaines grandes dégustations sur des grands traditionnels bordelais et autres qui me duraient de 67 à 95 on va dire, ou 90, et voilà, j'ai goûté tous les millésimes de ces différents grands domaines, ou sur Bordeaux, ou sur Bourgogne, ou sur les Côtes-du-Rhône. Voilà, ça m'a donné cette l'idée des millésimes et de leur évolution dans le temps. Après, sur un classique ou sur un nature, il suffit de transposer cette idée de temps. Comme là on est en train de le faire, que j'ai juste, c'est moi qui vous ai amené cette bouteille de vin pour avoir une certaine idée en fait de ce que peut être un vin nature dans le temps, et notamment je vous ai pas pris un grand domaine, je vous laisse goûter pour ensuite vous dire.
C'est le Mazel, c'est un vin rouge, cuvée Saint-Philippe, c'est un vin de 2000, Emmanuel Giraud.
Je me souviens sans grande clarté de cette soirée passée à la Tour Cassée, voluptueux bistrot brumeux du village de Valvinière, où chacune des pépites découvertes sur la carte des vins contribuait à rendre la soirée plus vaporeuse encore. Parmi les brouillards engendrés par les gamets, par les grenaches, par les syrahs, par les vionniers, parmi les fulgurances vocales d'un punk tchèque, surgit l'évidence d'un sourire blond vénitien et cet accord singulièrement lumineux avec la cuvée Saint-Philippe 2000 de Gérald Oustric, domaine du Mazel. Point d'orgue troublant à cette escapade ardéchoise.
Merci Emmanuel Giraud. Voilà un extrait par exemple de cet exercice boire pour se souvenir.
Oui, voilà, c'est une petite, un fragment, une sorte de morceau de mémoire qui ressurgit lorsque je goûte un vin aussi singulier et troublant.
Ce vin-là, vous l'aviez déjà goûté?
Oui, je l'avais goûté à Valvinière, à la Tour Cassée, qui est un formidable bistrot de pays où on trouve des vins absolument fabuleux, non seulement d'Ardèche, mais de toute la France. Enfin, je crois qu'ils ont une carte parmi les plus excitantes des bistrots dans tous les départements alentours.
Je remercie Frédéric de nous avoir apporté ce vin, parce que c'est vrai que c'est un vin qui a une certaine présence, vraiment. Antonin, vous le connaissiez, ce vin ?
Alors moi, j'adore les vins du domaine du Mazel, de Gérald Lustrick. Et vous savez, on parle beaucoup d'obsolescence programmée.
Pour le vin ?
Mais justement, pour le vin naturel, on pourrait peut-être parler d'obsolescence déprogrammée. Parce que je ne suis pas sûr que ce vin ait été fait tailler pour durer comme ça dans le temps. Il a maintenant 16 ans et il est encore très bien. Il a des arômes déjà évolués qui apparaissent, mais il est encore très bon. Et il a toujours son fruit, sa jeunesse. Et voilà, donc c'est ça le vin naturel aussi, c'est de retrouver une forme de liberté, y compris dans la garde, dans tous les aspects qu'on connaît du vin. Finalement, le vin naturel bouscule tout, chamboule tout et remet tout à plat. Donc les grands professionnels n'ont plus rien à dire. Ils se taisent, ils ont leur avis vaut autant que le nôtre.
Parce que dans ce manifeste pour le vin naturel que vous avez écrit, Antonin, aux éditions de L'Épure, vous rappelez que le vin naturel se conserve aussi.
Bien sûr, moi j'ai goûté des vins fabuleux de 20, 25 ans, naturels, totalement raisins, 100% raisins, et qui étaient merveilleux. Il faut simplement les conserver dans des conditions à peu près honorables, comme n'importe quel vin.
Encore faut-il qu'il y ait des caves ?
Non, pas forcément. On peut un endroit frais dans une cuisine, dans une pièce, n'importe où. Plus personne n'a de cave pratiquement aujourd'hui en France, enfin en dehors dans les grandes villes en tout cas. Donc c'est très compliqué d'avoir une vraie cave, mais il y a d'autres moyens, soit des caves électroniques, enfin voilà, tout ça c'est moins intéressant, mais ça existe, c'est très simple.
C'est Baudelaire qui écrit cette chose très belle, qui dit « Enivrez-vous », il dit « C'est ce que je pense vraiment », il dit « Il faut être toujours ivre, tout est là, c'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin ? De poésie ? Ou de vertu, à votre guise. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui rit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui fuit, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est, et le vent, la vague, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous sans trêve de vin, de poésie, d'amour ou de vertu, à votre guise. J'aime beaucoup ça.
Emmanuel Giraud n'a pas parlé de l'ivresse.
Alors on vous laisse la vertu, en revanche on veut bien plus de vin, s'il vous plaît.
Par exemple, on pourrait continuer sur ce vin justement que nous sommes en train de boire, s'il en reste encore, ce Mazel vin rouge cuvée. L'ivresse, c'est important.
À l'ivresse, oui, bien sûr. C'est une des contreparties difficilement évitables avec le vin, surtout quand il est bon. On a tendance à vouloir en boire un deuxième verre. Là, c'est le cas avec ce vin du domaine du Mazel. L'ivresse est fascinante. Elle peut être peut avoir son côté sombre également, mais l'ivresse est source de joie, elle est source de rire, elle est source de créativité. C'est formidable, l'ivresse.
Parce que lorsque vous faites votre performance boire pour se souvenir, au bout d'un moment, l'alcool monte quand même, Emmanuel Giraud.
Ah, ça fait partie intégrante de la difficulté de l'exercice, effectivement. C'est pour ça que c'est une vraie performance physique. C'est-à-dire que le début du texte est peut-être un peu raide, puisque je n'ai pas encore bu. Donc le temps de déguster quelques verres, ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc on va dire que mon phrasé est beaucoup plus détendu, beaucoup plus rond, beaucoup plus caressant. Et puis tout d'un coup, effectivement, au bout d'un certain nombre de verres, là, la difficulté commence à apparaître, notamment dans l'élocution. Il faut faire très attention à bien articuler pour que chaque phrase soit compréhensible et que je ne m'écroule pas par terre. Mais ça tient d'une... c'est un exercice périlleux, mais que je maîtrise bien pour le pratiquer souvent. C'est-à-dire que c'est comme un acrobate. Il y a une phrase très très belle de Yannick Enel qui s'appelle « L'excès ». J'ai écrit un tout petit pamphlet aux éditions de l'Épure, « L'excès, 10 façons de le préparer ». Et c'est une phrase qui me touche beaucoup, cette phrase de Yannick Enel. L'excès danse sur un fil au-dessus du vide. Évidemment, j'ai oublié la phrase, mais je vais la retrouver tout à l'heure.
Antonin ?
L'excès oui. Ouvre à une jouissance fragile, elle danse sur un fil au-dessus du vide. Voilà la phrase qui me plaît beaucoup et qui décrit à peu près bien cette performance, Boire pour me souvenir.
Que vous avez donné il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps dans la région.
À Marseille, exactement, à l'occasion de la première édition d'un très très beau festival autour du vin qui se déroulait il y a quelques mois seulement, au printemps dernier.
Antonin, vous qui êtes journaliste, blogueur, est-ce que les journalistes sont alcooliques ?
Tous. Je continue, je précise, non, c'est pas vrai. Les critiques de vin, qui sont des journalistes du vin, le sont pour la plupart, oui.
Quand on est caviste, Frédéric Coachon, on finit alcoolique ?
Non, pas forcément. On boit de moins en moins, peut-être de mieux en mieux.
Et on boit que du vin ou on boit autre chose ?
Alors, on boit beaucoup d'autres choses. Moi, pour ma part, je bois essentiellement que du vin. Mais j'ai pas envie d'aller trop loin non plus, donc à un moment, il faut aussi tenir son bistrot. Et avec des alcools, c'est un peu différent. Le vin reste quand même très doux. Et très souple pour pouvoir continuer à discuter et être là, être présent dans son établissement.
La plasticité de l'ivresse donnée par le vin est très très différente d'une ivresse donnée par un alcool fort, par exemple. On n'a pas du tout la même qualité d'ivresse. Et une ivresse d'un alcool fort est beaucoup plus difficile à gérer et beaucoup plus, en tout cas pour moi, beaucoup moins agréable.
Et si on parle des vins naturels, l'ivresse du vin naturel est plus légère, vraiment. Je me rappelle d'un auteur italien du 19e qui parle de l'ivresse, qui a fait tout un livre sur l'ivresse et le vin en général. Et lorsqu'il évoque l'ivresse, il ne parle jamais de mal de crâne terrible qu'on a le lendemain, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ces mal de crâne, parce qu'il n'y avait pas tous ces produits qu'on rajoute dans le vin et qui occasionnent ces terribles méfaits du lendemain et des ivresses dures, en fait.
Oui, Frédéric. Alors on est dans un endroit un peu particulier tout de même, on n'a rien dit de l'installation dans laquelle nous sommes, hein. Antonin, Emmanuel et Frédéric, vous êtes restés très silencieux quant au dispositif dans lequel nous sommes.
Parce qu'on a peur.
Et Emmanuel, vous pouvez le décrire ce dispositif ?
Alors nous sommes assis sur des rondins de bois, mais nous sommes entourés de grands parallélépipèdes recouverts de miroirs, ce qui fait que nous nous reflétons tous dans les miroirs environnants. C'est une installation très borgésienne, enfin, c'est vertigineux.
On se voit par les reflets.
Exactement.
Ben c'est une installation qui a pour titre « L'écritoire à vertige ». C'est une installation de Lise Cousinier et d'Olivier Lubeck. Je ne sais pas si Olivier Lubeck est parmi nous. Si oui, peut-être peut-il emprunter un micro. Juste quelques mots sur cette installation. Effectivement, ce plateau radiophonique un peu singulier. Nous sommes donc dans cette galerie des miroirs. Le public est à l'intérieur du plateau. Tout le monde se reflète. Et Olivier, est-ce que vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette installation ?
Alors, donc on s'y perd un peu. Donc c'est une installation que nous avons créée avec Lise Cousinier. Donc à l'occasion, nous l'avons créée à la Friche, à l'occasion des 18e correspondances de Manosque. Nous avons présenté cette installation en tant qu'écritoire. Donc c'est un écritoire à vertige et dans lequel nous invitons le public à faire une expérience. Et cette expérience consiste à marier les vertiges de la mise en abîme et les vertiges de l'écriture.
Et cette installation va continuer hein, au-delà de l'émission. Ensuite, le public ici présent, tout proche de nous, voilà, installé, va pouvoir continuer à évoluer dans cet écritoire à vertige. C'est l'occasion, c'est la fin pour nous hein, de cette émission et cette dégustation des vins. Mais je vous rassure, hein, Emmanuel Giraud, d'autres bouteilles sont à déguster après l'émission. J'en profite pour dire que donc Manifeste pour le vin naturel aux éditions de l'Épure, une maison d'édition remarquable hein, pour le vin, mais pas que, hein, pour tout ce qui est de la gastronomie.
Maison d'édition artisanale.
Maison d'édition artisanale.
Des petites mains qui font des très très jolis livres.
Et donc ce manifeste de Antonin Imoni Aminategui.
J'étais sûr que vous alliez vous planter un jour ou l'autre.
J'ai pas dit, ah oui, c'est Yomi. Bravo. Yomi Aminategui, vous le faites exprès hein, tout de même. Et donc ce manifeste très court, mais très direct, voilà, où l'essentiel est dit. L'essentiel est dit, effectivement. Et puis j'ai avec moi un livre de. Voilà, Emmanuel Giraud, Le goût de la mémoire, un livre de Marilène Malbert et qui permet d'une certaine manière de retracer, Emmanuel Giraud, eh bien, voilà, l'ensemble de vos gestes artistiques, de ces fameux dîners mémorables, donc toute une série de dîners, des opérations que vous opérez comme ça, enfin, des gestes que vous faites quant à la mémoire, parce que c'est surtout un travail sur la mémoire en définitive, hein, de ces fameux dîner, vous avez l'art de la rumeur, hein, Emmanuel Giraud.
Oui, c'est un ouvrage qui retrace 15 ans d'expérience culinaire autour du goût et de la mémoire.
Et vous avez commencé à la radio ?
Tout à fait, il y a fort longtemps à France Culture. Je travaillais à l'époque avec Jean Lebrun et je faisais des chroniques dans son émission.
Des chroniques gastronomiques, justement. Je crois même une fois que vous avez failli enflammer le plateau.
C'est arrivé une fois, effectivement, à Saint-Malo. Je flambais un homard et mon petit réchaud but à gaz est tombé sur la moquette et la moquette du Palais du Grand Lage a pris feu.
Juste à côté de nous, il y a la librairie de la Salle des Machines. Je vous invite aussi à aller à cette librairie de la Salle des Machines parce que là, eh bien, il y a un certain nombre d'ouvrages, dont notamment cet ouvrage de Sébastien Barrier, Savoir enfin qui nous buvons. C'est aux Actes Sud, un très très beau livre hein, de portraits de différents vignerons, n'est-ce pas Antonin ?
C'est pas vraiment un portrait, c'est plutôt le parcours d'une reconversion au vin naturel par un clown. C'est totalement absurde, il en a fait un spectacle qui dure 7 heures non-stop.
Mais il va à la rencontre de vignerons.
Ah oui, il rencontre plein de vignerons, et lui-même, et c'est sa transformation qu'il raconte en fait, c'est son parcours propre.
Et puis cette revue numéro 1, 12 degrés 5, vous la connaissez ?
Oui, c'est le premier numéro là, qui vient de sortir. C'est, ça vient de l'équipe de 180 degrés, qui nous parlait beaucoup de cuisine et de solide, et qui là se passe au liquide, donc c'est franchement intéressant, il y a des belles plumes.
Merci à vous tous.
Merci.
D'avoir participé à cette émission. Merci également au public pour votre écoute, pour votre dégustation, pour votre attention. Merci à Sébastien pour la réalisation de cette émission et à Pauline de nous avoir servi ces vins. Merci beaucoup. À très bientôt sur les ondes de Radio Grenouille 88.8.